et bienvenue dans notre chronique juridique hebdomadaire « De quel droit ?». Chaque semaine, nous décortiquons une thématique, une notion ou une problématique juridique afin de vous informer sur vos droits et vos moyens d'action. Alors, aujourd'hui, nous allons évoquer les interactions inévitables entre procès pénal et procès médiatique. Entre vérité judiciaire et sanction morale, y a-t-il un équilibre ? Voilà une question épineuse à laquelle je vais tenter de répondre en compagnie de la pétillante Jennifer.
Merci, épineuse et pétillante vont bien aller ensemble aujourd'hui, maître. C'est vrai que ce sujet est largement d'actualité et elle va être compliquée parce qu'il y a le droit sur lequel vous êtes notre experte, maître Céline Lindeau. Mais la morale et la liberté de chacun, et celui-ci fait parfois plus mal que le juridique. Donc nous allons faire un petit peu le point avec tout cela. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'impression qu'on peut être concerné, mais je pense que oui, on pourrait même être concerné dans tout cela. Nous allons avec vous donc voir un petit peu tout cela dans le détail. Alors maître, dans un premier temps, ce procès médiatique, qui avant avait ce terme d'ailleurs, procès médiatique, le connaissait, on avait entendu déjà ça ?
C'est une formule qui est employée par certaines personnes qui écrivent d'ailleurs sur le sujet. Donc c'est une formule qui permet de mettre en évidence les différences entre la justice pénale et la morale. C'est-à-dire que le procès, c'est un terme juridique, mais c'est aussi un terme générique.
Oui, quotidien.
Voilà.
On fait ton procès.
Exactement. Le procès médiatique, ça peut être également synonyme de lynchage médiatique. Enfin, il y a tout un tas de formules consacrées qui viennent mettre en balance ces deux notions. Ce système juridique et judiciaire d'un côté, alors qu'il y a un système qui fonctionne sur le temps long, d'accord ? La justice pénale, c'est une justice, c'est un droit d'interprétation strict, donc il faut qu'un fait corresponde à une infraction pour faire l'objet d'une décision de condamnation. Et surtout, c'est un procès qui doit être rationnel, qui doit se fonder sur des éléments objectifs, donc des actes de procédure qui vont être ordonnés sur des années. Donc on vient rendre une décision dans le cadre d'un procès pénal après des années d'investigation et surtout de façon dépassionnée. À l'inverse, le procès médiatique, qu'est-ce que c'est ? On est sur un temps très court, on est dans l'immédiat.
Ah oui.
Voilà. Surtout en ce moment, effectivement, les informations se suivent, s'enchaînent, on passe d'un scoop à un autre, on est sur du sensationnalisme, les sources d'informations sont multiples, c'est voilà, la course au buzz.
Bien sûr.
Donc,
c'est le scoop.
Voilà, et on est dans l'émotion. Évidemment, les gros titres sensationnels vont attirer notre attention et donc on va se situer dans de l'émotion, dans de l'immédiateté et on n'a pas le recul nécessaire pour se faire une opinion rationnelle. D'accord ? Donc on touche...
Est basé sur des faits. Instruit dans une procédure juridique, avec tout le temps imparti.
Exactement.
Comme vous le disiez au début.
Donc on va juger très souvent sur la base d'éléments partiels, parce que les journalistes qui vont publier des informations ne détiennent pas la vérité judiciaire, mais ont obtenu leurs informations de sources qui ont elles-mêmes leur partialité, c'est-à-dire leur propre vécu, leur ressenti. Donc, de base, l'information, elle est subjective.
Elle est même, j'ai envie de vous dire, par exemple, quand on prend les procédures qui sont actuelles, ça commence dans le média par « nous avons su que un tel a posé une plainte contre » et donc la personne est... presque coupable, quoi.
Alors, effectivement, le traitement médiatique...
Alors que c'était qu'une plainte à la base, et qu'on sait qu'une plainte, ce n'est pas une accusation validée par le tribunal.
Tout à fait. Alors là, vous touchez quelque chose de très important. On parlait du temps long, du temps court.
C'est ça.
Très souvent, on est informé de l'apparition d'un fait divers, d'accord ? On a, oh, ben voilà, bon, récemment, on a eu le cas Gérard Depardieu, on a pu avoir quelques faits divers.
Il y a Sébastien Couille, voilà. Il y a eu Harry Habitant, voilà, ce sont de multi, entre autres Patrick Poivre d'Arvor, c'est plein en ce moment, les exemples, on pourrait...
Et l'un se substitue à l'autre, c'est-à-dire qu'on va oublier ceux d'avant, on ne sait pas où en est l'enquête. Donc en fait, on est nous happés par le scoop, c'est-à-dire ben voilà, une, deux, trois, quatre personnes ont déposé des plaintes contre une personne qui est mise en cause, donc qui bénéficie quand même de la présomption d'innocence. Mais nous, on va s'arrêter à cette info et on ne, l'opinion publique,
bien sûr,
ne bénéficiera pas d'un éclairage constant et continu pour connaître les tenants et les aboutissants de la procédure qui est en cours.
Bien sûr.
Et parfois même des faits surmédiatisés lors de leur apparition, de leur révélation au grand jour, ne sont pas, n'ont pas la même répercussion médiatique lorsque la décision est rendue.
Bien sûr, parce que même parfois, comme vous disiez, ces affaires, on les oublie parce qu'elles prennent quand même 3-4 années parfois. Et on ne sait même pas au final le résultat, quoi. Je veux dire, c'est ça le pire. C'est vraiment, ça a été l'immédiateté. Alors, ce qui est fou, Maître, c'est que vous, je veux dire, de votre vue, donc de professionnel, d'avocat, voilà, on est dans ces procédures-là. Toute personne peut être concernée, sincèrement, hein, à un moment donné ou à un autre. Il y a une plainte qui est déposée, des faits doivent être prouvés, donc il va y avoir quand même une sacrée procédure. Ça prend du temps. Mais de ce côté-là, Maître, j'ai l'impression que on peut plus faire grand-chose en quelque sorte quand on est face à ces procès médiatiques. Je veux dire, vous êtes débordé, j'ai l'impression, vous, parce que vous devez même, vous, de suite agir, parce que vous savez que ça va tomber. La personne, elle est dans cette procédure, ça y est, il y a une plainte qui est déposée contre elle. Admettons, vous êtes, vous, pas du côté de la plaignant, du plaignant ou de la plaignante, mais du côté de l'accusé. On dit accusé...
Alors, accusé, oui, lorsqu'on est en matière criminelle. Mise en cause quand on est en phase d'investigation. Mise en examen quand on est mise en cause dans le cadre d'une instruction et prévenu lorsque l'on passe devant le tribunal. Donc vous voyez, chaque phase a une terminologie spécifique dans le traitement des personnes qui sont impliquées. Et ça, c'est très important.
Mais donc, on les entend, excusez-moi hein, de vous interrompre, quand on les voit dans les médias, admettons qu'on va parler, je vous dis, Sébastien Coé, accusé, mais qui a, c'est pas accusé, mais je sais plus le terme exact, il m'échappe d'un coup, mais c'est avec la présomption d'innocence. Voilà, mais il est déjà jugé.
Alors,
l'opinion publique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, même si un jour ça nous concerne, parce que on pourrait être, par exemple, je vous prends, je suis responsable d'entreprise, je suis accusé d'agression sexuelle sur un tiers. Je veux dire, si dans mon entreprise on sait cela, je vais être vite jugé par les salariés de mon entreprise, par exemple. Je peux être vite catalogué. Comment arrêter cette hémorragie, Maître ?
Alors là, il faut trouver l'équilibre entre donc la justice pénale, la sanction disciplinaire dans le cadre d'une société dans laquelle on travaille, et le jugement moral. Le jugement moral, on ne peut pas y couper dans tous les cas. Donc celui-ci est le moins fiable parce qu'il est passionnel et que ce qui est subjectif... chez les personnes, c'est justement ce jugement de valeur. On n'a pas tous les mêmes valeurs. Ce qui peut être toléré par un citoyen A sera inacceptable pour le citoyen B. Donc, le jugement moral, dans tous les cas, on n'y coupera pas. Par contre, ce à quoi il faut veiller, c'est que ce jugement moral ne constitue pas une atteinte à la présomption d'innocence ou ne constitue pas, je reviens au cadre de la sanction disciplinaire, un abus de droit de la part d'une personne qui pourrait se prévaloir d'une mise en cause pour écarter, par exemple, un salarié dans une entreprise. Donc là, bon, c'est un cas très spécifique, mais vous me parlez de cet exemple et il est quand même il est parlant. Un salarié qui fait l'objet de poursuites pénales, d'accord, va, dans le cadre de sa déclaration à la police, avouer qu'il a commis telle ou telle infraction. Puis finalement, pour une question d'opportunité, le ministère public ne va pas le poursuivre, il ne sera pas sanctionné pénalement. Eh bien, l'employeur qui a connaissance de ce procès-verbal, qui sait qu'effectivement il a reconnu, ça a été jugé encore récemment, hein, ça a été même confirmé par la Cour de cassation, il s'agissait même de faits de trafic de stupéfiants au sein d'une entreprise. Donc la personne avait reconnu les faits. Mais puis finalement, elle n'avait pas été poursuivie par le procureur parce que il avait reconnu avoir acheté de la drogue à un collègue de travail. Bon, voilà. Eh bien, on n'est pas dans le cadre d'une sanction pénale, donc il n'y a pas de vérité judiciaire prononcée. Mais par contre, l'employeur peut estimer que ce fait-là, qui n'est pas encore jugé comme une faute pénale, caractérise une faute disciplinaire. Et dans ce cas-là, l'employeur peut engager une procédure disciplinaire et licencier la personne. D'accord. Donc vous voyez, faute disciplinaire, faute morale, faute pénale. En fait, tout est une question de sémantique, d'une part, mais surtout d'appréciation juridique. Donc une faute disciplinaire peut ne pas caractériser une faute pénale. Et inversement, une faute pénale n'est pas commise dans le cadre de l'activité professionnelle peut quand même constituer une entrave au bon fonctionnement de la société, notamment la réputation. Oui. Hein, et là, l'employeur peut prendre des mesures à titre conservatoire, une mise à pied, enfin, oui. Des mesures temporaires, le temps que la lumière se fasse. Mais encore une fois, on est sur des temps qui sont plus ou moins longs. Il y a un grand principe en justice pénale, c'est que l'on dit que le pénal tient le civil en état. Ça veut dire que lorsqu'il y a un même fait qui peut caractériser une infraction pénale et une responsabilité civile, que deux juges distincts sont saisis, par exemple le juge civil, par exemple le conseil de prud'homme qui doit estimer s'il y a faute disciplinaire ou pas. Le juge du conseil de prud'homme, enfin le conseil de prud'homme peut sursoir à statuer en attendant voir ce que va décider la justice pénale. Et en fonction de la décision de la justice pénale, ça éclairera la juridiction pour caractériser déjà la matérialité des faits, hein, d'une part, et après pour caractériser...
Oui, parce que ça sera la conséquence du pénal qui viendra appuyer ou pas, mettons, une conséquence civile sur la carrière de la personne, admettons.
Voilà. Donc là, on a dévié effectivement sur le volet droit du travail, mais ça a un impact parce que même les dossiers médiatiques, dans les faits divers médiatiques qu'on
actuels,
a évoqués,
eh
bien, on voit bien que les personnes disparaissent des ondes, des écrans, et donc c'est une sanction qui dure, hein, parce que il faut savoir qu'en matière pénale, un des principes de la sanction, bon, c'est là. Le but, un des enjeux, ça va être de réprimer, certes, mais de réinsérer. Tandis que dans la sanction morale, eh bien, le jugement, c'est très difficile de revenir dessus.
En fait, il faut que le média, il nous lâche, en fait, en quelque sorte.
Oui,
voilà, en gros,
ça.
On voit, dès que ça en parle plus... mais bon, il faut quand même que dans l'opinion publique, ça s'atténue, que ça s'oublie, et même ça revient de dire, mais attends, mais lui, il avait pas été accusé de ça.
Oui.
Ça reste quand même indélébile. Mais le pire, c'est que comment faire, maître, quand, je veux dire, l'opinion publique prend parfois plus le pas sur le pénal, parce que admettons on est débouté, la personne a été déboutée dans sa plainte et dans ses accusations, je ne suis pas condamné, mais par contre le moral, lui,
alors il y a des moyens, oui, il y a des moyens quand même de faire valoir ses droits et psychologiquement de se remettre de ce type d'accusation, parce que ça peut détruire une personne si elle est accusée à tort,
bien sûr.
Voilà, il y a des personnes qui peuvent.
Évidemment, si la personne elle est jugée coupable dans ces accusations-là, c'est toute une autre idée, opinion qu'on pourra se faire nous, public. Mais par contre, la personne qui est
Eh oui, alors il y a des moyens, mais bien sûr, ce sont des combats. Eh bien, alors, il y a plusieurs possibilités. On peut, la personne injustement mise en cause, qui bénéficie d'une décision de relax, enfin, qui n'est pas condamnée, peut déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse lorsqu'il est établi que la plainte était abusive, enfin, en tout cas, qu'elle ne correspondait, qu'elle ne dénonçait pas des faits réels.
Oui.
Bon, première chose. Deuxième chose, il y a aussi lorsque le retentissement médiatique est important, enfin à partir du moment où on est dans le cadre d'une accusation publique, on a la possibilité de déposer une plainte pour diffamation. Et donc, on l'a vu, et on a vu des organismes de presse condamnés parce qu'ils n'ont pas pris de précautions pour évoquer un sujet. Je pense notamment à un fait divers qui est intervenu en 2002-2003. Oui, je crois que c'était fin 2002. C'est le fait divers que l'on a intitulé justement le bagagiste de Roissy. Donc, c'est une personne qui a été accusée d'être un terroriste islamiste et qui a été jugée par l'opinion publique, et la presse a relayé des informations sans avoir pris les précautions déjà d'ordre sémantique, hein, parce qu'on l'appelait le terroriste islamique, islamiste, le sinomi. Et puis, il était présenté comme coupable. Bon, sauf qu'il s'est avéré, au terme d'une investigation, qui n'a pas duré si longtemps, au final, donc très rapidement quand même. Enfin, tout est relatif, hein, en matière de justice, c'est pas non plus du jour au lendemain.
Mais bon. Rapidement, ça ne prenait pas non plus des années et des années.
Voilà. On s'est aperçu, les enquêteurs se sont aperçus que c'était un complot de la part de sa belle-famille qui lui en voulait terriblement. Et ces personnes-là se sont associées à d'autres personnes pour monter en épingle cette histoire et le faire condamner à terme pour des faits de terrorisme. Bon, et bien cette personne injustement qualifiée par la presse de terroriste islamiste, il faut voir qu'après on tape son nom sur Internet.
Et oui, il ressortait comme ça.
Voilà. Et bien a fait une procédure en diffamation et a obtenu gain de cause. Hein. C'était, à l'époque, je crois que c'était France 3 qui a été condamné pour diffamation. Donc, il y a des moyens de se défendre et de rétablir sa propre vérité. Voilà. Et donc, la vérité judiciaire, il y en a. Mais c'est un combat, bien
sûr. C'est un combat. Et puis, même qu'une fois qu'on a obtenu gain de cause, ça fait quand même une réparation, malgré tout. Même qu'il y ait un gain financier, même qu'il y ait, qu'après, le média doit reconnaître qu'il a été trop loin dans ses propos sans vérification des faits, tout ça rétablit quand même un honneur pour la personne. Mais je pense que la personne, elle est quand même assez détruite,
oui.
Parce qu'on ne se rétablit pas, même qu'on a eu gain de cause. Mais malgré tout, il y a eu un laps de temps où on a été considéré en tant que tel, par rapport à ses accusations, même qu'après, il peut aller voir un psy, etc. Mais être réhabilité vraiment en totalité, je ne crois pas, non, maître.
C'est très difficile, et d'autant plus quand c'est médiatisé. Parce que déjà, que lorsque l'on est dans sa propre... dans sa cellule sociale réduite. Voilà, qu'on est accusé à tort, bon, ben, on doit très mal le vivre, le regard des autres, le doute, parce qu'il y en a toujours qui trouveront que la justice pénal n'a rien compris. Enfin bon, donc on a toujours ce regard un peu méfiant.
Ouais, mais de dire, mais peut-être que.
Hein. Voilà, peut-être que. Bon, donc imaginez quand c'est médiatisé et que parfois vous zappez sur la télévision puis vous voyez un reportage sur l'affaire dans laquelle vous avez été impliqué à tort.
À tort, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis.
Ça doit être très difficile, effectivement. Et moi, je suis toujours surprise de voir que les personnes ne prennent pas décision de changer de pays. Je pense qu'il y en a qui prennent cette décision, mais bon, après, il faut avoir les moyens, il faut avoir, bien sûr...
Pouvoir le faire, bien sûr.
Avec la famille,
le professionnel.
Ça doit être très compliqué.
Mais c'est vrai que vous avez envie de dire, j'ai envie de changer de vie, qu'on m'oublie, quoi, complètement. Donc, c'est certain que, voilà, on a fait ce thème, comme on le disait, parce que c'est tellement actuellement quelque chose qui concerne beaucoup de personnes et qui sont parfois avérées, ou justement souvent au contraire accusé à tort, mais on voit qu'il y a plus fortement, on va dire, d'implication, de retentissement, de faits comme ça durs sur ces personnes-là par rapport à l'opinion publique et surtout par rapport aussi aux réseaux sociaux, maître. Tout cela aussi, comment le maîtriser, ça sera un thème qu'on développera à part, mais je veux dire, on parlait des médias, mais quelle action aussi on peut avoir sur l'opinion publique quand il est sur les réseaux sociaux, parce que là il est aussi exponentiel, on ne peut pas le limiter. Comment faire, maître, quand par exemple vous parliez de ce terroriste, imaginez, on voit oui mais moi je pense que oui, je l'ai vu à Roissy déjà, il avait une tête bizarre, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi, et ça enchaîne. Comment faire, maître, pour contenir tout cela? C'est impossible.
C'est impossible de contenir tous les propos vexatoires, toutes les opinions bien tranchées et bien mal informées d'ailleurs. Donc ça, il faudrait passer sa journée sur tous les réseaux sociaux.
Mais vous avez une procédure, maître Céline Lindo, dans lequel vous pourriez faire stopper cela, de dire à des réseaux sociaux tels que Facebook, X, tout cela. Là, quoi, de dire,
oui, il y a des process pour informer effectivement le réseau social, du fait que il y a des informations qui sont soit des appels à la violence, après ça a ses limites aussi, donc le cas échéant il faut aller en justice, demander dans le cadre d'une procédure urgente le retrait telle ou telle publication, c'est possible, mais il faut concilier, on parle des réseaux sociaux, c'est pas la presse, mais il faut concilier tant de principes: la présomption d'innocence, la liberté d'expression, liberté de la presse. Il y a des moyens, je ne dis pas qu'on y arrive toujours, mais effectivement, dans le cadre de réseau social, on le voit aujourd'hui avec le harcèlement scolaire, et effectivement, vous me donnez une idée de thème, parce que c'est un thème ô combien actuel. Mais il y a des choses à faire vis-à-vis des sites tels Facebook.
On n'a pas l'impression, maître, sincèrement, on le développera, qu'on peut quand même tout canaliser, tout contrôler.
On ne peut pas. Voilà. Clairement, on ne peut pas tout canaliser. Donc, il faut déjà cibler le vecteur qui est préjudiciable, donc le message qui est préjudiciable, vérifier si ça porte atteinte à un principe fondamental de la justice française, ou si ça porte tout simplement atteinte à l'honneur d'une personne aussi, et en fonction, il faut demander le retrait de la publication, et puis si on l'a pas, il faut se retourner vers les juridictions.
Alors maître, c'est pas que vous êtes vous êtes avec une expérience certaine, vous me disiez que ça faisait combien de temps que vous étiez avocate?
Ça fait 12 ans.
Donc vous avez quand même une certaine expérience. Vous trouvez pas que déjà, en si peu de temps, d'autres collègues à vous qui ont 20, 30 ans, 40 ans d'expérience, vous trouvez pas quand même que le paysage a changé malgré tout sur cela? Vous étiez confronté à ces procès médiatiques, comme on disait?
Alors, des procès médiatiques, il y en a toujours eu. Simplement, aujourd'hui, il y en a tous les jours. Parce que on est informé de tout. Alors, ce qui avant restait, c'est peut-être pas un mal aussi d'ailleurs, les langues.
Sur certains cas, non.
Voilà. Les sources d'information sont multiples. Il n'y a plus qu'un seul canal d'information. Il n'y a plus que la télé ou la radio. Il y a Internet. Donc, parfois, on va aussi chercher les informations qu'on a envie de trouver. Donc, c'est ça le danger. Vous touchez quelque chose de d'intéressant, c'est que le droit s'adapte à la société.
Et oui, et elle évolue avec
son temps. Vous voyez, le harcèlement sur les réseaux sociaux, ça n'existait pas
complètement
à mon époque, quand j'étais jeune, adolescente. Il y avait effectivement des gens qui pouvaient se faire racketter, c'était physique.
Bien sûr, ça a toujours existé, mais pas
maintenant,
comme ça.
Ça prend en proportion, parce que ça ne s'arrête pas au portail de l'école. Ça continue et c'est bien plus intrusif, parce qu'on est chez soi, dans son cocon familial, et on va voir sur un écran, on va être agressé.
Ah, complètement. C'est le mot que vous m'avez arraché de la bouche, d'ailleurs. Je voulais dire, c'est une agression, moi, je trouve.
Chez
même.
Soi.
Voilà. C'est ça. Dans son propre intimité, déjà que on est atteint nous-mêmes par ces faits. Alors là, c'est la double sentence, quoi, je veux dire. Donc, mettre en tout cas sur ce sujet qu'on pourrait développer des heures et des heures, c'est certain. En tout cas, aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire, en dehors d'être réellement dans ces accusations, qu'on ait réellement agressé quelqu'un. Mais j'ai envie de vous dire, presque, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles on peut se protéger? Je vous disais l'exemple tout à l'heure, je suis dirigeant d'entreprise. Est-ce qu'il n'est pas plus judiciable de, quand on fait un entretien avec son salarié, d'être assisté toujours d'une tierce personne, par exemple, pour éviter des accusations calomnieuses, infondées, à tort? Il n'y a pas des choses, maître, que vous pouvez presque nous dire. Il y a des faits réels, ça, on peut pas les enlever, et malheureusement, ça existe, et heureusement que les langues se délient, et qu'on peut aujourd'hui faire plus prouver et plus condamner les personnes qui sont à l'origine de tout cela. Mais quand même, il y a des choses où on voit que c'est à tort. Et on a envie de dire, aujourd'hui, face à tout cela, tout ça, c'est s'emballement, et on voit toutes les conséquences que ça peut avoir, il n'y a pas des choses sur lesquelles vous pourrez nous conseiller de se protéger,
maître? Oui, il y a des précautions qui commencent à être prises, hein, d'ailleurs, en entreprise. Justement, vous évoquez l'entretien, ne plus faire d'entretien à deux. Alors, c'est dommage, hein, parce que bon, les relations sociales prennent un coup, hein, pardonnez la trivialité de l'expression, mais c'est vrai que, voilà, on ne peut pas vivre toujours dans la suspicion et dans la méfiance, mais vous savez, dans une entreprise, on se connaît, on passe plus de temps avec les personnes avec qui on travaille qu'avec notre famille. Donc, à partir du moment où on commence à sentir qu'il y a une personnalité qui peut être problématique, qui a tendance à se victimiser, bon, voilà, et que du coup, on veut se prévenir de toute accusation, alors, peu importe l'accusation, hein, j'ai envie de dire, c'est pas forcément que des accusations d'ordre sexuel, voilà, peu importe. Et effectivement, prendre ce type de précautions, d'ordre organisationnel, choisir ses mots lorsque l'on doit faire une remarque sur le travail, pour que ça reste toujours quelque chose de très de constructif, hein, comme remarque, et rien de personnel. Faire des entretiens à plusieurs pour que il y ait toujours des témoins. Bon, oui, c'est un peu triste, mais effectivement, c'est...
Ah, je suis désolée, hein, maître. Je sais que je vous mets dans un contexte, mais qui est malheureusement la réalité.
C'est des conseils que je donnerais à une personne qui vient me voir en me disant, écoutez, moi, j'ai une salariée qui commence à... Enfin, on sent qu'elle prépare un dossier. Alors, pour quel but? Parfois, ça peut être un but indemnitaire. Parfois, c'est d'ordre tout simplement psychologique. On a des gens qui se considèrent victimes de faits qui ne sont pas pour autant des infractions ou des atteintes à ses droits. Mais bon, voilà. Quand on a ce type de personnalité en face de soi, effectivement, il vaut mieux prendre des précautions.
En tout cas, non. Voilà. C'est certain. Et de dire, voilà, les choses évoluent. Faire attention. On reviendra sur ces sujets, sur les harcèlements. Attention au partage des vidéos. On le fera tout ça, maître, sur ces sujets, les précautions à prendre, les procédures, car c'est vraiment un nouveau quotidien pour vous, j'ai envie de vous dire, en tant que représentant et défendeur de nos droits. Voilà. Ça, c'est certain.
C'est vrai. Par contre, ce qui est quand même important de signaler, c'est que la position de la victime dans ce type de situation, ben, ce n'est pas la plus facile non plus, c'est même plus difficile, parce qu'elle n'a pas la couverture médiatique. C'est-à-dire qu'on sait qui est mis en cause, puisque ça fait les gros titres, mais le nom des victimes, au final, bon, déjà parfois certaines ne veulent pas le révéler, mais... elles prennent moins la parole, elles ont moins de prise de position. C'est-à-dire que là, bah, par exemple, on voit pour le cas Gérard Depardieu, c'est très clivant, hein, on le voit bien, on a les pros, on a les contre, bon, ceux qui
on
le
arrive,
défendent, ceux qui le dénoncent.
On arrive jusqu'au président de la République.
Voilà, tandis que la victime, elle n'est pas en position, et ça, de toute façon, c'est symbolique, c'est représentatif du procès pénal. Le procès pénal, c'est le procès du mise en cause. D'accord, on va bien sûr parler de la victime, mais c'est la personne que l'on va juger qui est au premier plan. Et ça, c'est le seul point commun entre le procès pénal et le procès médiatique, c'est que c'est le mis en cause qui est sous les projecteurs et qui du coup va bénéficier de soutien, alors pas de soutien, de prise de position des uns et des autres.
Oh, mais j'ai l'impression quand même que maître, sans vous vous contredire, mais malgré tout, les personnes victimes sont quand même aussi pas dans une bonne position, comme vous le disiez, parce que si l'on prend, je vous dis par exemple l'affaire Coé, où il y a, c'est parti d'une jeune fille, voilà, on rentre dans son intimité, on va aller sur ses réseaux sociaux, dans sa vie de famille, dans sa vie, voilà, on va vite se faire une opinion. Elle va le voir d'ailleurs aussi sur les réseaux sociaux, donc elle va dire non mais elle c'est une arracheuse de dents, elle dit ça mais en fait regarde ce qu'elle fait. Donc c'est certain que les positions des victimes ne sont pas, alors elles sont pas autant médiatisées parce qu'elles ne sont pas des personnages publics, mais en revanche je n'aimerais pas non plus, en dehors d'être déjà une victime tout court, et quand c'est avéré, eh bien malheureusement c'est une très, très difficile position, mais malgré tout on est aussi jugé.
Ah oui, on est jugé. Et ce qui est, ce qui doit être très délicat aussi dans ce type de situation, c'est que, eh bien, on n'a pas envie d'être réduite à la qualité de victime. C'est-à-dire que cette personne, c'est un nom, un prénom, une vie, un passé, qui va bien au-delà de l'heure où les faits qu'elle dénonce se sont produits. Et voilà. Donc, bien sûr que ça fera partie de sa vie plus tard, mais d'être réduite à la victime de telle ou telle personne, ça doit être aussi une sorte de sanction médiatique.
Et surtout, ce qui est fou, maître, pour finir, c'est qu'en plus, ce qu'on disait en introduction, même pas, on sait la finalité de ces procédures.
Très souvent, c'est très ça. Souvent. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là pour rééquilibrer les balances.
Voilà, et là j'ai envie de dire, c'est à nos collègues médias de faire aussi peut-être l'effort d'aller jusqu'au bout, parce que le sensationnel, le scoop, le flash info avec le gros titre, mais par contre de dire, eh ben voilà, l'affaire Depardieu, elle est allée jusque-là, et en finalité, ça s'est résumé à ça. Eh bien, c'est aussi peut-être important de le savoir, voilà, parce que oui. Au final, on voit qui a eu gain de cause.
Effectivement. Alors, les médias d'un côté, mais l'opinion publique de l'autre, parce aussi. Que si les médias relaient et que ça n'a pas d'écho. Parce que souvent, hein, on voit quand même le procès, tel procès médiatique, voilà, a donné lieu à la condamnation de. Et puis ça va pas, susciter de débat dans l'opinion publique.
Du départ.
Donc voilà, le vecteur de communication est important, mais celui, le récepteur,
c'est le public.
Ouais. Donc le public peut-être devrait s'intéresser à autre chose.
Eh oui, on est en train de changer de mentalité peut-être. En tout cas, si vous avez besoin de conseils, vous le voyez que maître Céline Nendo s'attaque à de multiples sujets sur Diva FM 101.8. Notre avocate référente qui est donc sur Marseille. Maître, pouvons-nous vous retrouver sur quel téléphone et quel site internet, s'il vous plaît ?
Oui, si vous avez besoin d'un conseil, d'une consultation ou d'un accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 86 01 28 70 ou via le formulaire de contact du cabinet que vous trouverez sur le site internet www.lindo-avocat.fr.
Rappelons également que maître Céline Lindo est une spécialiste aussi du droit qui est à la fois français, certes, mais aussi de nos voisins au territoire italien. Donc, c'est-à-dire si vous avez des procédures qui doivent être faites sur les deux territoires, eh bien, maître, c'est une experte en la matière, puisqu'en plus, c'est une véritable bilingue. Donc, elle fera très, très bien l'affaire si vous avez besoin de ses conseils et de ses compétences. Et n'hésitez pas aussi à retrouver toutes les émissions de notre avocate Céline Lindo sur le site de la radio, en podcast, sur le www.diva-fm.fr. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures, j'ai envie de dire, si on peut les dire ainsi. Parce qu'aujourd'hui, c'était une aventure, ce thème. Un sacré sujet qui est pas facile et j'ai vraiment pas envie un jour d'y être
confrontée.
Ah, complètement, maître. En tout cas, bon, je sais que je taperai chez vous. J'ai pas envie pour cela. En tout cas, je préfère mieux vous avoir juste devant le micro. Voilà, c'est bien plus agréable.
Je ne vous jugerai pas.
Merci, maître. À la semaine prochaine et une excellente écoute et à très bientôt, maître.
À très bientôt.